Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Bienvenue, si vous venez d'allumer votre poste sur RMC, vous avez fait le bon choix. Au programme jusqu'à 16h, J-1 avant le trophée des champions, Paris Saint-Germain, FC Nantes, c'est à Tel Aviv en Israël. Nous serons sur place dans un instant pour les dernières infos. Côté parisien et nantais, les conférences de presse à suivre de Christophe Galtier et d'Antoine Comboiré d'ici la fin de l'après-midi. Les directs avec le cyclisme, Tour de France Femmes, classique Saint-Sébastien en vélo. On reviendra plus en longueur avec nos deux envoyés spéciaux, Valentin Jamin en Alsace pour les femmes et Arnaud Souk au Pays Basque pour les hommes. Dans une heure, les qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie. Jean-Luc Roy nous présentera cette dernière course, non pas de la saison, mais avant la traditionnelle pause de 4 semaines dans la saison. Hashtag RMC Live et l'appli direct au studio pour réagir. Et ça vient de partir en Ligue 2, direction Gaston Gérard, la Côte d'Or, Dijon, Saint-Etienne, Fred Joly sur place, évidemment, toujours dans la joie et la bonne humeur, parce qu'évidemment, le football nous avait manqué, donc on est toujours content quand ça reprend, Fred.
Exactement, et surtout quand on a un magnifique soleil, qu'il y a du public, plus de 10 000 spectateurs, qu'il y a une belle ambiance, même si le score est toujours de 0-0, c'est un match qui a, il n'y a pas eu de ronde d'observation. Vraiment, les deux équipes se sont mis dans le jeu. Tout de suite, on vient d'ailleurs d'avoir le premier carton jaune de cette partie pour Briançon, qui a fermé un petit peu la porte au jeune Nassi, l'une des recrues dijonnaises arrivée de Saint-Brieuc. Walid Nassi qui a été bousculé, le coup franc qui a subi n'a rien donné avec ce débordement, ce centre dijonnais et le ballon qui est sorti du bout du pied par Giroudon. Lui aussi une recrue, tu en as parlé tout à l'heure du côté de Saint-Etienne, Giroudon qui arrive évidemment du club de Troyes que Laurent Batless a fait venir car ils se connaissent bien évidemment les deux garçons. L'un était entraîneur, l'autre était déjà défenseur central à l'époque de Troyes. Et bien il a voulu faire appel à ce garçon qui a prouvé en défense troyenne qu'il était vraiment très efficace. 0-0 après 8 minutes de jeu, mais on l'a dit, hein, une rencontre très très ouverte, pas véritablement de grosses occasions, mais le jeu n'est pas fermé, c'est plutôt agréable pour un match de reprise.
Et antenne ouverte dès qu'il se passe quelque chose à Dijon pour Dijon Saint-Etienne, premier match de cette saison de Ligue 2 2022-2023. Direction le Pays Basque, on est loin de la Côte d'Or, retrouver Arnaud Souk pour la classique Saint-Sébastien chez les hommes, Arnaud.
Et il reste 86 km 700 à parcourir pour les hommes de tête ici au Pays Basque autour de San Sebastian. 86 km 700 donc pour 8 hommes de tête puisqu'ils étaient 9. Mais il y en a un, John Barrenechta de l'Espagnol de l'équipe Carabao qui a notamment été distancé de cette échappée. Ils sont 8 donc en tête. Théo Delacroix notamment et Fabien Grelier, les Français. 1,35 d'avance sur le peloton. On commence à durcir la course notamment du côté des équipes des favoris. On a aperçu du côté de Quickstep ou encore du côté de Bike Exchange des coéquipiers de Remco Evenepoel et de Simon Yates venir se placer aux avant-postes du peloton. Également gros travail de l'équipe UAE pour Tadej Pogacar. Ça veut dire que cela ne va plus tarder désormais à se mettre en marche. L'écart qui n'est jamais monté au-delà des 3 minutes qui s'est réduit à 1 minute 35 donc à 86 km de l'arrivée. Autant dire que cette échappée est condamnée.
Merci Arnaud. Et oui, ça va s'animer puisque ça va grimper hein, dans la dernière heure et demie de course.
Oh, ça a déjà grimpé.
Ça a déjà grimpé.
On a passé la moitié des difficultés. Voilà, exactement. On a passé la moitié des difficultés. Tiens, dans quelques kilomètres, tu observeras, Arnaud, la montée du Jaiz Kibel, qui sera l'une des grandes difficultés de la deuxième étape du Tour de France l'an prochain, puisque vous le savez, peut-être ou peut-être pas. D'ailleurs, si vous le savez pas, je vous l'apprends. Le Tour de France 2023 fera son grand départ au Pays Basque espagnol.
De Bilbao, c'est pour ça que tu es déjà en repérage dans le coin, même si là, on est à San Sebastian et Bilbao, c'est un petit peu plus loin. Le cycliste, c'est aussi le Tour de France Femmes. On fera un point sur la course pour cette avant-dernière étape et surtout la première de montagne avec le petit ballon d'Alsace, le grand ballon d'Alsace. Ça sera déjà une étape très importante pour le maillot jaune. Marianne Vos, est-ce qu'elle va pouvoir garder ce maillot? On fera un point avec Valentin Jamin tout à l'heure. Direction, là on va à l'est de la Méditerranée, direction Tel Aviv, puisque demain aura lieu à 20h le trophée des champions avec ce Paris Saint-Germain FC Nantes. Arthur Perrault est sur place pour RMC. Bonjour Arthur.
Salut Arnaud, bonjour à tous.
Comme en France où il y a un beau soleil, est-ce qu'également au bord de la Méditerranée à Tel Aviv, tu es gâté par le temps?
Oh oui, c'est exactement la même chose, grand soleil, chaleur, grosse chaleur, totalement différente de celle du Japon pour les joueurs parisiens. la chaleur de la semaine dernière avec 70% d'humidité. Là, ça cogne dur. Il vaut mieux avoir de la crème solaire avec soi.
Un premier trophée à glaner cette année entre Paris et Nantes, le Paris Saint-Germain qui avait perdu le trophée des champions, Arthur, l'année dernière à Tel Aviv, puisque c'était déjà en Israël.
Ouais, exactement, une défaite 1-0 face à Lille. Le Paris Saint-Germain qui est l'équipe qui a remporté le plus de fois ce trophée, mais qui compte aussi 5 défaites en finale, ce qui n'est pas rien. C'est vrai que c'est un premier rendez-vous très important, premier match officiel pour le club de la capitale et potentiel premier trophée pour Christophe Galtier depuis son arrivée en tant que nouvel entraîneur. Mais il faudra se méfier aussi de cette équipe nantaise qui a réussi à se préparer du côté de Saint-Nazaire.
Le Paris Saint-Germain, quel groupe parisien il y a, tout simplement Kylian Mbappé, qui de toute façon n'allait pas jouer parce qu'il était suspendu, il n'a même pas fait le déplacement. Hein.
Alors non, c'est vrai qu'il y avait une petite incertitude d'ailleurs à ce sujet, parce que Kylian Mbappé, pendant un certain temps, on pensait qu'il allait faire quand même le voyage pour assister à cette rencontre malgré sa suspension, mais finalement le Paris Saint-Germain a annoncé aujourd'hui qu'il est resté du côté du camp des loges pour effectuer des soins, avec donc une autre partie du groupe, avec les indésirables comme on les appelle désormais: Kurzawa, Wijnaldum, Herrera, Draxler, Rafinha et maintenant Thilo Kehrer. Donc tout ce petit monde-là est resté du côté du camp des loges. Mais on aura quand même 22 hommes du côté de Tel Aviv, avec une composition probable qui devrait ressembler à celle qui a été alignée face au Gamba Osaka lors du dernier match de préparation, avec devant le trio Messi, Neymar et Sarabia, qui devrait être préféré à Arnaud Kalimuendo.
Et cette défense à 3, Arthur?
Une nouvelle fois reconduit, oui, par Christophe Galtier. C'est vrai qu'il l'avait indiqué dès sa conférence de presse de présentation. On redonne ces trois hommes derrière du côté du Paris Saint-Germain: Ramos, Marquinhos, Kimpembe, pour un 3-4-1-2. Au milieu de terrain, Hakimi, Verratti, Vitinha et Nuno Mendes, et évidemment dans les cages Gianluigi Donnarumma, puisque Christophe Galtier a dit qu'il voulait mettre en place une hiérarchie au niveau des gardiens, ce qui n'était pas le cas la saison dernière sous Mauricio Pochettino, avec donc Keylor Navas désormais comme numéro 2.
Dans les joueurs, les fameux indésirables, tu as égrené plusieurs noms. Il y a un joueur que tu n'as pas mentionné, qui est présent à Tel Aviv. Et c'est vrai que c'est un petit peu surpris, parce que
c'est la surprise.
C'est la surprise, on l'annonce à chaque fois partant. Et il est là, c'est un certain Mauro Icardi.
Exactement, qui a fait le voyage avec donc ce groupe parisien, qui a atterri hier soir assez tard à Tel Aviv. Oui, surprenant, mais on pourrait l'expliquer peut-être par le fait que les négociations pour un départ de Mauro Icardi sont très très complexes, pour deux raisons. D'abord, le coût du transfert qui est très élevé pour Mauro Icardi, la prise en charge également de son salaire. On sait qu'il y avait déjà un intérêt de Monza, club italien, mais ce club demandait à ce que le Paris Saint-Germain prenne en charge 60% de son salaire, ce qui très clairement n'est pas possible. C'est aussi peut-être pour cela que lui a pris la direction d'Israël, parce que justement on sait du côté du Paris Saint-Germain que ce sera très compliqué de faire partir l'attaquant parisien, alors qu'à côté, par exemple pour Thilo Kehrer, les négociations avancent bien avec d'autres clubs étrangers qui sont intéressés.
Et pourquoi pas le montrer? C'est souvent une tactique quand on veut faire partir un joueur, il faut montrer aussi qu'il est bon. Et on rappelle
aussi,
pas de Mbappé est suspendu, et pas non plus d'Hugo Ekitike.
Exactement. Lui aussi est resté du côté du camp des loges. On estime qu'il n'est pas encore prêt à 100%. Il a déjà effectué 2 séances avec le Paris Saint-Germain. Mais voilà, il va rester du côté de Saint-Germain-en-Laye du centre d'entraînement pour travailler. L'objectif est quand même très clair: zéro prise de risque. Il faut qu'il soit à 100% pour la première journée de championnat qui se déroulera du côté de Clermont pour le club de la capitale.
15h15 sur RMC, l'intégral sport. On suit Dijon-Saint-Etienne. Tiens, un point, le temps, le score. Fred Joly à Gaston Gérard pour ce match de Ligue 2, le premier de la saison.
15 minutes de jeu, le score est de 0-0. Il y a une occasion, une petite occasion pour les Dijonais, un coup franc tiré par Marié, et on a voulu prolonger de la tête de la part de Congré, le défenseur central, mais Green était parfaitement placé. Il a pu capter cette balle. 0-0 après 15 minutes et 30 secondes de jeu à Gaston Gérard.
Et nous sommes en direct de Tel Aviv, puisque demain au stade Bloomfield, ce sera le trophée des champions, avec Arthur Perrault et Timothée Mémon en commentaire. Match à suivre en direct direct et en intégralité à 20h ce dimanche. D'ailleurs, quelle est l'ambiance, Arthur, à Tel Aviv? C'est la deuxième fois qu'il y a cet événement en Israël, à Tel Aviv. Est-ce qu'on voit des affiches, on voit un peu une effervescence, ou les Israéliens s'en moquent un peu?
Alors c'est pas sans moquer, mais on va dire que c'est très très calme. On n'a pas avec Timothée Mémon croisé d'affiches en centre-ville, sur le bord de mer, ou même voilà dans le quartier d'affaires. C'est vrai que en faisant le trajet vers Tel Aviv, en prenant l'avion, on a beaucoup de ressortissants qui nous en ont parlé. Après, on rappelle la raison du fait que ce trophée des champions se déroule ici en Israël, c'est que là
il est Grün, l'occasion de Jeunesse, c'est parti de la droite. C'était bien combiné de la part des Côtes d'Orient à ce centre. Et il y avait le Bihan Penax. Il s'applique, il ouvre son pied droit, il frappe de l'intérieur du pied. Mais Green est parfaitement placé et sort le ballon du cadre. La première grosse occasion, elle est dijonnaise, 0-0 entre Dijon et Saint-Etienne.
Oh, ça chauffe déjà sur cette cage. De retour à Tel Aviv, Arthur Perrault avec voilà, l'ambiance à Tel Aviv.
Oui, exactement. C'est plutôt calme pour l'instant ici en Israël. On redonne quand même la raison pour laquelle la LFP a décidé de faire ce trophée des champions à Tel Aviv. Depuis 2009, d'ailleurs, chaque trophée des champions se joue à l'étranger. La volonté, c'est s'offrir absolument une vitrine internationale avec à chaque fois un retentissement plus ou moins important. Il y a aussi eu des trophées des champions à Shenzhen en Chine, à Tanger au Maroc, ou encore à Montréal du côté du Canada. C'est plutôt calme aujourd'hui. Ça va peut-être s'accélérer avec la conférence de presse et l'entraînement du Paris Saint-Germain prévu à 18h30 heure locale, 17h30 heure française. Voilà, peut-être que petit à petit ça va commencer à monter. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt calme du côté de Tel Aviv.
Arthur, tu ne bouges pas, on va dire un mot des Nantais. Mais à 15h17 sur RMC, c'est le quintet du jour avec Dimitri Blanc-L'Œil, direction Enghien. Bonjour Dimitri.
Salut Arnaud, bonjour à tous. Il reste environ 1000 mètres à parcourir dans le quintet du jour avec une épreuve de vitesse, hein. C'était tout simplement 2150 mètres. Et comme je le disais, on a fait la moitié du parcours avec Finn Pearl of Love, l'une des favoris de cette épreuve, qui a repris le commandement. On est dans la ligne d'en face dans cette épreuve et Mathieu Abrivard semble en avoir encore plein les mains, comme on dit, hein. Il a beaucoup de ressources, il se retourne et actuellement il ne voit pas le favori, hein, le numéro 7 Falco Berry. Ça y est, Jean-Michel Bazir, il est sorti. Les deux favoris qui vont se retrouver aux deux premières places pour aborder déjà le dernier tournant de cette épreuve avec Finn Pearl of Love, le numéro 5 qui est au commandement. Deuxième position pour le 13 Excel d'Amour qui vient dans son sillage avec Falco Berry, le numéro 7 qui vient à l'extérieur. Quatrième position pour le 14, El Magnifico de Loup, qui se rapproche en quatrième épaisseur, qui ramène dans son sillage le 10, Fignot du Pomereux, alors que l'on va rentrer dans la dernière ligne droite. Accélération de Finn Pearl of Love. Il y a un mano à mano entre Finn Pearl of Love, le numéro 5, et le numéro 7, Falco Berry. Mais attention, hein, Finn Pearl of Love a l'air d'être au-dessus de la mêlée pour l'instant. Il reste environ 250 mètres à parcourir. Mathieu Abrivard qui a l'avantage. Il a deux longueurs d'avance sur Falco Berry qui ne peut pas revenir, alors que l'on termine bien à l'extérieur avec le numéro 14, El Magnifico de Loup, et encore plus à l'extérieur avec le numéro 10, Fignot du Pomereux, qui va faire une belle ligne droite. Finn Pearl of Love qui a toujours l'avantage à 100 mètres du poteau, mais qui se raccourcit un petit peu. Finn Pearl of Love, Mathieu Abrivard est obligé de solliciter un petit peu. Est-ce qu'il va pouvoir aller au bout, Finn Pearl of Love, dans ce quintet? Ah, ça grappille centimètre par centimètre, mais il va aller au bout. Il va s'imposer. Finn Pearl of Love s'impose dans cette épreuve, le numéro 5. La deuxième place est très disputée. J'ai l'impression que le numéro 14, El Magnifico de Loup, est venu chercher cette deuxième place dans le quintet, mais elle a été très bonne, très forte, Finn Pearl of Love, avec son entraîneur Emmanuel Varin, qui était dans les courses RMC. Il était confiant. J'espère que la plupart des gens qui ont pu entendre Emmanuel Varin ont pu profiter de cette info pour mettre leur petite pièce. En tout cas, cette jument attachante a gagné le quintet du jour. Le numéro 5 s'impose. La deuxième place pour le numéro 14. La troisième, il va y avoir photo, hein, entre le numéro 1 et le numéro 10. Et la cinquième place en retrait reviendra au numéro 7, le favori Falco Berry. Je résume, le 5 devant le numéro 14, photo AC 10 et 7. Arrivée provisoire, Arnaud, on se retrouve dans une quarantaine de minutes, hein, pour faire le point sur l'arrivée définitive et les rapports de ce quintet.
PMU. Que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Dimitri. De retour à Tel Aviv pour dire quand même un mot des Nantais. Arthur Perrault, le trophée des champions demain. Antoine Comboiré face à Galtier. Tiens, c'était les deux coachs au Stade de France pour la finale de la Coupe de France. Mais surtout, Arthur, Antoine Comboiré, ça nous fait penser au début du PSG bling bling, entre guillemets, puisque voilà, le président Nasser Al-Khelaifi a dit que c'était la fin du PSG bling bling. Antoine Comboiré, qui fut le premier coach de l'RQSI, c'est lui qui avait vu les premières recrues arriver, dont un certain, on se souvient, qui avait conquis le cœur des Parisiens, un certain Javier Pastore.
Entre 2009 et 2011, on rappelle évidemment son passé de joueur au club de la capitale entre 1990 et 1995. On se doute que Antoine Comboiré aura un plan pour cette rencontre. Attention à ces Canaris qui se connaissent très très bien. L'effectif n'a pas beaucoup évolué pour l'instant durant ce mercato. On en parlait déjà hier, Arnaud, avec le départ de Randal Kolo Muani en Allemagne, avec finalement l'arrivée de Mostafa Mohamed pour le remplacer, ce joueur égyptien. Nantes s'est préparé du côté de Saint-Nazaire et d'Avranches avec un bilan assez contrasté, avec deux victoires contre Caen et contre Lorient et deux défaites face à Rennes et face à Guingamp. Mais là où il faut aussi avoir un œil, c'est sur les dernières confrontations, parce que oui, le rapport de force est très déséquilibré. Sur les 20 derniers matchs, il y a quand même 17 victoires du Paris Saint-Germain et 3 victoires. Mais le dernier face-à-face en championnat, le 19 février dernier, eh bien ce sont les Canaries qui s'étaient imposés 3 buts à 1. Donc voilà, il y aura aussi en plus de ça un petit parfum de revanche du côté de l'effectif parisien.
Et puis les Canaries décomplexés, eux, qui seront directement en Europa League. Ils ont leur billet pour la phase de poule. Merci beaucoup Arthur Perrault en direct depuis Tel Aviv. Et Aviv, tiens, les horaires des conférences de presse, ça va commencer par le PSG tout à l'heure ?
Ça va commencer par le Paris Saint-Germain, exactement à 16h30 heure française. Il y aura un entraînement dans la foulée qui va durer une heure. Voilà, évidemment, vous pourrez retrouver toutes les infos sur rmcsport.fr et la conférence de presse d'Antoine Comboiré à suivre à 18h30.
Et vous entendrez les réactions de Christophe Galtier, Antoine Comboiré dans la suite de l'Intégral Sport, que ce soit avec Simon Dutin à partir de 17h ou même dans l'Intégral Foot tout à l'heure avec Benoît Boutron et le Multiplex Ligue 2 dès 19h. Merci beaucoup Arthur en direct de Tel Aviv. Et à très vite pour les dernières informations. Un point sur la Ligue 2. On joue depuis un peu plus de 20 minutes. C'est le premier match de cette saison 2022-2023. Gaston Gérard, le Dijon, le DFCO Dijon face à l'AS Saint-Etienne. Fred Joly.
22 minutes de jeu et n'en déplaise aux supporters stéphanois qui ont fait le déplacement. Ils sont plus de 450 entassés dans la zone qui leur est réservée, plus tous ceux qui sont installés dans les tribunes de Gaston Gérard. Eh bien, c'est Dijon qui domine cette rencontre et qui semble pour ça se créer de véritables grosses occasions, mais en quelques tentatives plutôt intéressantes. Mais pour l'instant, le score est toujours de 0-0 entre Dijon et Saint-Etienne.
Merci Fred, on te retrouve tout de suite. On va également parler vélo un peu plus longuement. Le Tour de France Femmes qui est en Alsace avec l'ascension du petit et du grand ballon. Première étape de montagne dans les Vosges avant le finish demain qui promet d'être sensationnel. Et l'ascension, l'ultime ascension, les derniers hectomètres sur la super planche des belles filles. Et puis surtout, on va s'attarder sur la Classica Saint-Sébastien, la course qui a débuté il y a deux bonnes heures déjà au Pays Basque avec Arnaud Soupe, qu'on retrouve dans un instant dans l'Intégral Sport, également dans 20 minutes la présentation des qualifications du Grand Prix de Formule 1. À tout de suite dans l'Intégral Sport.
RMC Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
15h28, on est heureux de vous accompagner. Et un but à Gaston Gérard. Fred Joly, c'est la Ligue 2, Dijon Saint-Etienne.
But dijonnais, un ballon qui a été récupéré à 25-30 mètres du but. L'accélération des Dijonnais, ça a été un petit peu confus dans la surface de réparation stéphanoise, et un ballon qui est revenu devant le but de Green, et Le Billon a tranquillement poussé un ballon qui est venu arriver de la gauche, a été remis dans l'axe vers Le Billon, et Le Billon qui met le pied en opposition pour permettre à cette équipe du DFCO de prendre l'avantage après 29 minutes de jeu. C'est plutôt mérité sur l'ensemble de cette première demi-heure. Dijon mène 1-0 grâce à Le Billon.
Alors, il n'y a pas le VAR en Ligue 2. Il semble être couvert quand même hein, au départ du centre sur l'action dijonnaise, mais une erreur du défenseur de Saint-Etienne quand même, Fred. Hein,
ah ouais,
qui s'est un peu emmêlé les pinceaux. Hein.
La défense stéphanoise, même le milieu est un peu arrêté déjà, ce qui permet aux Dijonais d'accélérer et de pouvoir déborder sur le côté. Et puis dans l'axe, c'est un petit peu catastrophique. Hein. Les défenseurs centraux se sont un petit peu emmêlés les crayons, ce qui fait que le ballon est parti de la gauche pour aller complètement à droite et revenir plein axe. C'était beau à voir, mais c'était un peu trop simple pour un match de Ligue 2. Une équipe stéphanoise, une défense surtout stéphanoise, qui peut un peu s'en vouloir sur ce but encaissé après 29 minutes de jeu, qui fait évidemment la joie des Dijonais qui mènent au score face à la AS Saint-Etienne.
Je crois que c'est Mickaël Nadé qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux là au deuxième poteau. Bon voilà, plutôt logique hein, cette ouverture du score du DFCO donc face à Saint-Etienne. Ce premier match de Ligue 2, 1-0 pour Dijon face au Vert. Le vélo avec le Tour de France femme. On retrouve en Alsace entre Célestat et le Markstein, Valentin Jamin qui suit cette avant-dernière étape du Tour de France femme. Bonjour Valentin.
Salut Arnaud, bonjour à toutes et à tous.
Et je vois sur mon écran de contrôle des écarts, plein d'écarts, plein de coureuses disséminées à droite à gauche. Hein.
Il y en a partout, comme on dit dans le jargon du cyclisme. Première étape de montagne, on le rappelle, trois cols de première catégorie au programme. On vient de passer pour les femmes de tête le col du Petit Ballon. Elles sont dans le second col, le col de Place Varcel. Et puis il y aura, pour finir, le col du Grand Ballon. Toi, de ce Tour de France femmes, effectivement, ça a attaqué dès la première montée, dès le col du Petit Ballon, avec Annemiek van Vleuten, la grande favorite au début de ce Tour. Elle a été malade sur la première semaine. On sentait qu'elle avait des fourmis dans les jambes, la néerlandaise de 39 ans. Donc elle a attaqué. Une seule coureuse a pu la suivre. C'est Demi Vollering, également néerlandaise de 25 ans de l'équipe SD Works. Elles sont donc deux à l'avant. Deux filles qui étaient à peu près une minute trente au classement général de Marianne Vos, la maillot jaune, qui elle est complètement décrochée. Elle est à 8 minutes de la tête de course. Donc les écarts sont déjà énormes. On est donc dans cette seconde montée, le col du Platzfer-Vasel. Et donc entre Marianne Vos, la maillot jaune, et la tête de course, il y a des petits groupes intercalés à 1 minute et 15 secondes environ. On a Elisa Longo-Borghini, l'italienne, qui était quatrième ce matin au général, et puis 1 minute 10 encore derrière Longo-Borghini. Un groupe avec une Française, Juliette Labouche, une deuxième Française, Evita Music, qui s'est bien accrochée, ou encore celle qui était deuxième ce matin au général, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma. Voilà, donc beaucoup de dégâts, on s'y attendait. On disait que demain la planche des belles filles c'était l'apothéose, mais l'étape reine c'est probablement aujourd'hui pour ces filles, donc qui sont dans la montée du col du Platzfer-Vasel, qui vont redescendre et qui termineront avec le col du Grand Ballon, toit de ce Tour de France femme, 1336 mètres d'altitude.
Valentin, on te retrouve dans quelques minutes pour évoquer un peu plus en détail, mais on a compris que Marianne Vos devrait perdre son maillot jaune aujourd'hui.
C'est sûr.
Ouais, largement distancée, mais alors la sprinteuse en tout cas aura animé vraiment le début de ce Tour de France femme. Mais c'est vrai que là, ce week-end est un juge de paix avec ses multiples ascensions dans les Vosges. À tout de suite, Valentin.
À tout de suite.
La classique à Saint-Sébastien, un point sur la course. Arnaud Souk qui est au Pays Basque.
Et on a toujours nos hommes de tête. Ils ne sont plus que 4 en tête. Ils étaient 9 au départ. Ils n'ont surtout plus que 29 secondes d'avance sur le peloton. On a vu depuis de nombreux kilomètres déjà les équipes des leaders et des favoris se mettre en ordre de marche. On a aperçu notamment longuement tout à l'heure l'un des coéquipiers de Tadej Pogacar, en l'occurrence Jan Polansch, venir se placer aux avant-postes du peloton, rouler pour réduire l'écart. Un écart donc qui est descendu désormais à 30 secondes sous l'impulsion du AE, sous l'impulsion également de Quickstep Alpha Vinyl, ou encore sous l'impulsion de l'équipe Ineos Grenadiers et de Bike Exchange pour Simon Yates. On est dans la quatrième difficulté du jour. Je t'en parlais tout à l'heure, Arnaud, le Jaizkibel, qui est une montée, une jolie montée hein, autour de Saint-Sébastien, une montée de 8 km, pardon, je vais y arriver, à 5,6% de moyenne. C'est une ascension qui sera bien empruntée l'an prochain par le peloton du Tour de France, le Tour de France qui s'élancera du Pays Basque, qui est le grand départ qui aura lieu au Pays Basque espagnol, avec une étape notamment à Bilbao, une étape à l'arrivée ici à Saint-Sébastien. Donc voilà, on commence à prendre ses marques un petit peu du côté du peloton. Encore 70 km à parcourir, donc une trentaine de secondes d'avance pour les 4 rescapés de l'échappée matinale. Autant dire qu'on attend la grosse bagarre. Il reste donc, après ce Jaizkibel, deux énormes ascensions encore, l'Airlights et surtout le Mourgil, là où Remco Evenepoel avait construit sa victoire il y a 3 ans. C'est une ascension qui, voilà, pour parler aux spécialistes, n'est pas sans faire penser à la côte de la Redoute sur Liège-Bastogne-Liège. Et tiens, qui c'est qui a gagné Liège-Bastogne-Liège il y a 2 mois de cela? Et bien c'est justement Remco Evenepoel. Donc voilà, on devrait avoir quelque chose de sympathique tout à l'heure dans le final.
Et bien parlons-en de Remco Evenepoel, qui n'a pas fait le Tour de France. C'est vrai que sur cette course, il y a quelques absents. On a noté évidemment Julien Alaphilippe, qui n'est pas remis du Covid qu'il a eu il y a quelques jours. Pas de Wout Van Aert aussi, pas de Benoît Cosnefroy pour rajouter un Français. Mais il y a Remco Evenepoel qui n'était pas sur la grande boucle. Et il y en a un, par contre, il y était et on l'a vu puisque c'est le Dauphin, Tadej Pogacar. Est-ce qu'on peut s'attendre véritablement à un duel entre ces deux hommes?
Alors il y aura d'autres garçons hein, à surveiller. Ne mettons pas de côté par exemple Alejandro Valverde, qui du haut de ses 41 ans, tiens c'est marrant d'ailleurs, c'est la 41e édition de la Clásica San Sebastián, et il a 41 ans à l'Espagnol, le champion du monde 2018, exactement. Et il aimerait bien, là, il a reçu un petit béret honorifique justement au Pays Basque hier en marge de la présentation de la course. Voilà, c'est le citoyen d'honneur, on va dire, de San Sebastián, lui qui est originaire plutôt du sud de l'Espagne, de Murcia. Murcia exactement. Bref, en tout cas, Alejandro Valverde qui sera là. On aura également côté français David Gaudu. On peut citer d'anciens vainqueurs du Tour d'Italie, Tao Gegenhardt, Jay Hindley qui s'est imposé cette année, Matej Mohoric deuxième l'an passé derrière Nelson Poles. Mais tu l'as dit, hein, vraiment les deux garçons qu'il va falloir surveiller, c'est Remco Evenepoel parce qu'il a gagné en 2019, et Tadej Pogacar, lui qui n'a jamais inscrit son nom au palmarès de cette course. Mais voilà, Remco Evenepoel qui a, on va dire, un petit peu passé la pommade justement à Tadej Pogacar en marge de la course, en présentation de la course. Il a dit voilà, pour moi le favori c'est Tadej Pogacar. Écoutez justement la réponse de Tadej Pogacar que j'ai rencontré hier à Saint-Sébastien.
I'm honored. It's my pleasure.
Je suis très honoré, c'est un plaisir, mais je pense qu'il sera très bon lui aussi. Il vient d'un stage d'altitude, il va essayer de gagner une deuxième fois ici. Mais je vois aussi plein d'autres prétendants, pas seulement lui. Il y a beaucoup de coureurs qui peuvent l'emporter aujourd'hui.
Tadej Pogacar à ton micro, Arnaud. Quelle est la place de cette classique San Sebastian? Parce que le 19 août, ce sera le début de la Vuelta, où Tadej Pogacar n'a pas prévu de s'engager, mais où Remco Evenepoel, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl, a prévu et a nourri de grandes ambitions d'ailleurs sur cette Vuelta.
Oui, absolument, absolument. C'est vrai que c'est son grand objectif hein, de fin de saison. D'ailleurs, il était absolument hors de question pour lui. Éventuellement, il y a eu des spéculations sur son éventuelle participation au Tour de France, vu que Julian Alaphilippe n'était pas sélectionné par l'équipe Quick-Step après avoir été gravement blessé justement sur Liège-Bastogne-Liège. On en reparle encore. Mais Remco Evenepoel, lui, non. Son objectif, c'était clairement la Vuelta. Il sait qu'il pourra y faire bonne figure dans quelques semaines à partir du 19 août, la Vuelta qui s'élancera de Utrecht aux Pays-Bas. Après, voilà, pour répondre à ta question initiale, la place de cette Classica San Sebastian dans le calendrier, elle est assez bonne, elle est assez claire. D'ailleurs, voilà, il n'y a qu'à voir la start list finalement pour s'en rendre compte. Je t'ai cité quelques noms, mais je pourrais t'en citer d'autres. Je pourrais te citer Vincenzo Nibali, je pourrais te citer Bauke Mollema, Guillaume Martin, Aurélien Paré-Peintre, Søren Krag Andersen. Bref, il y a vraiment du beau monde, tout simplement parce qu'elle est considérée dans ce, on va dire, ce sac de classiques, un petit peu en dessous des classiques des monuments, à savoir Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, Liège-Bastogne, Liège, le Tour de Lombardie et Milan-San Remo. Juste en dessous, on a une dizaine de classiques, voilà, très très importantes au calendrier World Tour, et celle-ci, la Classica San Sebastian, en fait partie. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le palmarès hein, pour se rendre compte de l'importance de cette course. Voilà, les dernières années, on a Remco Evenepoel, on a Julian Alaphilippe, on a Michał Kwiatkowski, également le champion du monde 2014 qui l'a emporté, tu l'as dit, Alejandro Valverde, Adam Yates, bref, vraiment des très beaux noms. Si on remonte un petit peu plus loin, on a même eu des victoires de Laurent Jalabert, de Miguel Indurain, de Claudio Capucci, ou faut-il le dire, mais bon, il l'a quand même gagné par exemple de Lance Armstrong en 1995. Donc c'est une belle classique, c'est une classique que l'on s'arrache, c'est une classique pour grimpeurs, pour puncheurs. Il y a même parfois des arrivées au sprint. Bref, tout le monde peut avoir sa carte à jouer, donc ça attire énormément. Et puis le cadre est quand même, il faut le dire, assez sublime ici, donc à Saint-Sébastien, au Pays Basque espagnol.
Pays Basque espagnol, Pays Basque français, même combat, deux régions magnifiques. Merci Arnaud, on te retrouve pour faire un point sur la course et voir est-ce que Tadej Pogacar va une nouvelle fois animer comme il a animé le Tour de France et peut-être être
couronné. Il y a des chances, il y a de grandes chances. Ça commence vraiment à s'animer là.
Il avait le sourire hier quand tu l'as croisé, toujours.
Ah, ça c'est incroyable. C'est un garçon qui est vraiment égal à lui-même, hein. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on puisse penser de sa domination, c'est un garçon absolument incroyable. C'est un garçon charmant, c'est un garçon qui répond toujours avec beaucoup de politesse, qui n'envoie jamais balader. Alors il a tellement de sollicitations que parfois c'est compliqué de répondre à toutes les sollicitations, mais je peux vous dire que dans un cadre calme comme celui de la Classica San Sebastian, où évidemment on passe de dizaines et de dizaines de journalistes qu'on avait sur le Tour de France à une poignée de journalistes sur la Classica San Sebastian, je peux vous dire que voilà, il a le sourire, il prend le temps de répondre à chacun, de répondre à toutes les questions, même presque un peu gêné à un moment de devoir partir pour aller au podium protocolaire hier. Bref, non, Tadej Pogacar, il est dans un super état d'esprit et c'est un régal de le retrouver.
Et puis sa joie d'être sur un vélo est communicative, hein, et ça rejaillit vraiment. Alors tout sur les suiveurs comme toi ou sur le simple téléspectateur que je suis et que vous êtes aussi avec les antennes de RMC. Vraiment, on est conquis par sa joie, son bonheur, à dire bon bah voilà, on peut ne pas gagner, mais on va tout donner, on va s'amuser. Ça reste du sport et du vélo, hein.
ça reste du sport et du vélo. Et quand on se repenchera, on va pas refaire les débats qu'on a fait il y a une semaine avec toute l'équipe de l'Intégral Tour, mais quand on se repenchera un petit peu sur le palmarès de Tadej Pogacar, se rendre compte que ce garçon à 23 ans a déjà gagné deux Tours de France, a déjà gagné Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie et j'en passe, l'Estrade Bianche par exemple, c'est tout simplement exceptionnel. Ne boudons pas notre plaisir d'avoir un garçon aussi exceptionnel et un garçon qui va certainement marquer l'histoire de son sport, et ne boudons pas non plus le plaisir aujourd'hui de lui voir opposer un Remco Evenepoel. Ça va être très sympathique. Tadej Pogacar qui justement est actuellement en 6ème position dans le GSP du
peloton des favoris. Le deuxième but du Johnny. Et tout vient une nouvelle fois de Le Bihan qui a trouvé Camara sur le côté. La frappe de Camara est légèrement touchée par Green et ça revient dans les pieds de Soumaré, me semble-t-il, qui inscrit à la 41e minute le second but. Dijonais et Dijon mènent 2-0 face à la S Saint-Etienne.
Merci Fred. Les Stéphanois déjà dans le dur et déjà encore une deuxième erreur, un deuxième ballon donné dans la surface de réparation aux Dijonais et ils se font sanctionner 2-0 pour le Dijon, désormais coaché par Omar Daf. A tout de suite Fred pour la fin de cette première mi-temps. Merci beaucoup Arnaud. Évidemment tu restes avec nous connecté pour suivre la fin de cette Classica San Sebastian qui va être animée, on en est sûr, tu nous le garantis à 100%.
Oui, voilà. Peut-être que ça s'animera à la toute fin, mais je pense pas. Je pense que ça va s'animer avant. Là, vu les positions des uns et des autres, là, ça a pas l'air de rigoler.
Et on revient tout de suite dans l'intégral sport. Question Formule 1, puisque ce sera les qualifications du Grand Prix de Hongrie dans 19 minutes. Et l'année dernière, vous savez qui a gagné le Grand Prix de Hongrie ? Esteban Ocon. C'est la dernière victoire française pour le pilote alpine. Il avait gagné l'année dernière. On espère un bis repetita que ça va se reproduire, même si ça risque d'être compliqué tant Max Verstappen, le champion du monde en titre, semble intouchable en ce moment. On en parle, on présente ses qualifications avec Jean-Luc Roy dans un instant. On revient sur RMC, ne bougez pas.
RMC Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
15h45 sur RMC, on est heureux de vous accompagner en ce samedi 30 juillet après-midi. Vous êtes nombreux hein, sur les routes, un point de trafic dans un petit quart d'heure sera fait. C'est vrai qu'il y a eu de nombreuses difficultés. On parle Formule 1 dans un instant sur RMC, présentation des qualifications du Grand Prix de Hongrie, le dernier Grand Prix avant cette pause estivale de 4 semaines, souvent source de tractations en coulisses pour s'attribuer les baquets pour la saison d'après. Un point sur le score, bah tiens, on va vivre la fin de cette première mi-temps puisqu'on est dans le temps additionnel. C'est la première rencontre de Ligue 2 de la saison, Dijon contre Saint-Etienne depuis Gaston Gérard. Fred Joly,
il reste 1 minute 30 à jouer sur les 2 minutes de temps additionnel. Les Dijonais mènent 2-0, une équipe dijonnaise qui a souffert hein, pendant sa préparation, et Le Bihan le disait, j'en ai bavé avec ce que nous a mis en place Omar Daf, et bien finalement ça paye. On est en train de retrouver un Michael Le Bihan qu'on avait perdu depuis son arrivée d'Auxerre ici à Dijon. L'année dernière il n'a pas fait grand chose, il était même un petit peu en surpoids, mais là il a, non seulement il a retrouvé vraiment une superbe ligne, mais en plus il est décisif, il marque le premier but, il est à la base du second, et ça permet à Dijon, alors que le coup de sifflet vient d'être donné à l'instant même, Dijon de mener 2-0 face à la AS Saint-Etienne, but de Le Bihan et de Soumaré.
Merci Fred, bonne mi-temps. Et donc déjà l'information importante, l'AS Saint-Etienne malmenée et menée 2-0 par le DFCO, le Dijon, le club de Dijon d'Omar Daf à la mi-temps. A tout de suite pour cette deuxième mi-temps. Et puis je... Oui Fred,
à tout à l'heure je disais.
À tout à l'heure. Fred, la Formule 1, les qualifications de ce Grand Prix de Hongrie, c'est dans un petit quart d'heure. Et Jean-Luc Roy nous a rejoint en studio. Bonjour Jean-Luc.
Salut Arnaud, bonjour à tous.
Évidemment c'est un petit peu le Grand Prix avant les vacances, puisque c'est d'ailleurs une obligation réglementaire. Après ce Grand Prix de Hongrie, le prochain, ce sera dans 4 semaines, et les équipes devront vraiment se mettre au repos au moins 2 semaines.
Exactement, c'est-à-dire que logiquement, même les ingénieurs n'ont pas le droit de travailler. On a bien compris que certains, si tu veux, en tondant leur gazon qui pousse lentement, même en Grande-Bretagne, ont le temps de s'occuper un petit peu du reste. Non, mais officiellement, effectivement, c'est la période de vacances obligatoire. Il faut dire que les équipes sont soumises évidemment à un rythme infernal, comme tu le sais, 22 Grand Prix cette saison. On en a passé 12, mais il en restera. Après, on attaque d'ailleurs par un triplé, une triplette. Ça va être chaud en rentrant avec Spa-Francorchamps, avec la Hollande et avec Monza.
Les qualifications sous la pluie, ça c'est, on s'y attendait. Et ben alors j'ai vu tout à l'heure tomber le résultat des essais libres numéro 3, celui qui est arrivé en tête. Alors là la grosse cote hein.
Bah oui, écoute, Nicolas Latifi, faut bien que ça arrive. Non, on va pas lui enlever ses mérites, le pauvre. Mais il a bien joué avec, naturellement, la nature de la piste, puisqu'il était tombé énormément d'eau, surtout en début de séance, même un véritable déluge au milieu. Et puis, comme d'habitude, la piste allant en s'asséchant, avec le passage répété des monoplaces, et puis même un léger rayon de pâle soleil. Ceux qui ont chaussé les pneumatiques intermédiaires dans les toutes dernières minutes ont signé le meilleur temps. Alors, c'est le cas, effectivement, Latifi, ça c'est chaud. Charles Leclerc, deuxième temps, on s'y attendait quand même un petit peu, mais Alex Albon, troisième temps. Là, je peux te dire que c'était la grosse cote. Si on parie sur la FP3, c'était difficile.
Je pense qu'il y a un milliardaire.
Hein. Ah oui, il y a un milliardaire, ça c'est clair.
On attend une réaction de Ferrari et notamment de Charles Leclerc qui a eu des déclarations très fortes où il s'en voulait. On rappelle, lors du dernier Grand Prix, le Grand Prix de France, il était en tête, il a perdu l'arrière et il est allé dans les protections.
Ben, ce qu'on peut noter une nouvelle fois, enfin, tout le monde le sait, moi j'adore ce pilote pour plusieurs raisons. D'abord, il est d'une honnêteté scrupuleuse, presque trop. Là, il a tout pris sur lui, il était vraiment tellement déprimé en disant j'ai fait une erreur coupable, je ne mérite pas de gagner, je ne mérite pas de gagner le championnat du monde, on n'en est pas là, même s'il compte 63 points maintenant de retard sur Verstappen, qui lui avait compris, enfin en début de course, hein, c'était pas encore gagné pour Charles, mais bon, il était devant. En revanche, ce qui s'est passé, c'est facile à expliquer, c'est que une nouvelle fois chez Red Bull, stratégiquement, si chez Ferrari, malheureusement, on s'est pris les pieds dans le tapis, pas chez Red Bull, on a donc arrêté de manière un tout petit peu anticipée Verstappen qui était derrière et qui ne trouvait pas l'ouverture pour lui chausser donc les pneumatiques suivant pour aller au bout. Et du coup, Charles savait dans ce dernier tour, avant qu'on l'arrête, en tout cas je pense que lui de lui-même il se serait arrêté parce que sinon il perdait la course, donc il fallait pas qu'il perde trop de temps sur Verstappen en pneu neuf, tu sais, fameuse technique dite de l'undercut, hein. Et donc bah, il en a un poil trop fait, et puis dans le double droite du bosset, qui est quand même un virage qui se passe à 250 à peu près, il a légèrement mordu avec le pneu arrière gauche. Bon, c'est ce qu'on appelle effectivement une faute, il peut s'en vouloir, et honnêtement il a tout pris sur lui, alors qu'il disait depuis quelques temps qu'il avait des petits problèmes de pédales d'accélérateur, de ressenti. On sait, tu sais bien sûr que ce sont des pédales par...
En Autriche, il a fini la course.
Exactement. Donc, il y a quand même un petit souci, mais il a eu l'honnêteté, là aussi, de ne pas mettre ça sur le dos d'un problème technique. Il a dit, non, c'est moi qui ai fait la connerie.
Pourtant, Dieu sait que parfois, on est les premiers à taper sur les équipes de Ferrari, que ce soit sur la stratégie ou les arrêts au stand. Il y a un an, on vivait une émotion... toujours presque, j'allais dire, indescriptible. Un pilote français qui remporte une course, c'était Esteban Ocon, avec cette victoire devant un certain, d'ailleurs, Sébastien Vettel, qui va prendre sa retraite. Esteban Ocon, bon, le gagner encore cette année, ça va être forcément compliqué, tant les
sauf
Ferrari
s'il pleut,
et les
te
Red
dire,
Bull.
Sauf s'il pleut, tout peut arriver, tu vois. On a vu l'an dernier, d'ailleurs, et ça n'est pas, bien sûr, diminuer ses mérites, ni cette belle victoire, mais tu te rappelles du strike au moment du départ, hein, où là, c'est notre ami Bottas, là, qui avait fait très, très fort, hein, en éliminant d'un seul coup, les deux Red Bull en
strike.
Ah ben là, c'est vraiment une belle partie. Puis Stroll s'était chargé de Charles Leclerc derrière. Donc, si tu veux, ça en a fait 5 directs. Alors, c'est vrai que ça nettoie le tapis, hein, quand après neutralisation, on se rappelle également de l'épreuve d'Hamilton, de l'erreur d'Hamilton qui reste avec ses pneumatiques pour la pluie sur une piste s'asséchant, alors que tout l'ensemble du paquet des rescapés passe par les stands.
Et il avait pris le départ tout seul.
Et il avait pris le départ tout seul. C'était jamais arrivé en Formule 1. Mais au moins, il l'a fait. Et puis, bon, bah. Après une très belle course d'Esteban, parce que il avait quand même
Vettel. Il avait du rythme. Ah,
il avait un rythme formidable. Non, puis tu sais, c'est comme les championnats du monde. Après, on peut toujours refaire le championnat en disant j'ai perdu ici, j'ai perdu là. Non, bah, celui qui gagne, c'est le plus fort, c'est le meilleur à ce moment-là, et puis c'est tout. Et Esteban, bah, on est ravis évidemment d'avoir deux pilotes français en championnat du monde qui sont deux vainqueurs de Grand Prix, puisque Pierre Gasly, lui, l'avait emporté à Monza l'année d'avant.
Même si on aime beaucoup Pierre, on est content quand il gagne. Quand c'est dans une voiture française, on est encore plus content un petit peu avec l'Alpine.
Et tu sais que ça remonte à Alain Prost, alors je crois que c'est même 83 en Autriche, une victoire d'un pilote français sur une voiture française à moteur français. Donc c'est incroyable.
Le triplé, carrément.
Le triplé.
Et donc on est content pour Esteban Ocon qu'on a eu évidemment cette semaine sur RMC. Jean-Luc, dans 9 minutes, tu nous commenteras les qualifications du Grand Prix de Hongrie. On file au vélo et notamment à Saint-Sébastien où il y a un premier coup de théâtre. Arnaud Souk, la classique Saint-Sébastien, course masculine.
Je t'avais annoncé qu'il allait se passer des choses et bien plus proche de l'arrivée, bien plus loin de l'arrivée pardon que prévu, puisqu'à 60 km de l'arrivée, dans les derniers hectomètres de la quatrième difficulté du jour, le Jais Kibel, Tadej Pogacar, le double vainqueur du Tour de France, deuxième du Tour de France 2022, n'a tout simplement pas pu suivre le train imposé par l'équipe Quickstep Alpha Vinyl. Donc Tadej Pogacar qui va peut-être essayer de rentrer sur le peloton des favoris à la faveur de la descente de quelques kilomètres dans laquelle il se trouve actuellement, mais en tout cas c'est une information information. Il a été lâché sur les derniers hectomètres de cette montée, sachant qu'il reste encore deux ascensions derrière avec de très très forts pourcentages. Ça réduit quand même largement les chances aujourd'hui de voir Tadej Pogacar eh bien s'imposer. Voilà, en tout cas il est il navigue en queue de peloton actuellement, mais ça va être compliqué pour Tadej Pogacar aujourd'hui.
Comment on peut l'expliquer? Pas son jour? Est-ce qu'il y a encore de la fatigue après
fatigue.
Le tour?
Fatigue, très certainement, grosse fatigue après le Tour de France, fatigue physique, fatigue mentale. Il a eu une semaine off aussi, enfin off si l'on puisse dire, puisque il est allé voir sa compagne notamment sur le Tour de France femme. Voilà, il a fait assez peu de sorties intensives. Il est arrivé ici juste avant la course. Il a eu le temps à peine de reconnaître le parcours de la course. Tadej Pogacar. Donc voilà, ceci explique sans doute cela. C'est tout un tas de raisons qui nous donne aujourd'hui un Tadej Pogacar pas du tout aérien, et on découvre, on apprend aussi à découvrir nous autres observateurs, et je pense aussi dans le peloton, un coureur slovène qui n'est pas toujours impérial, voilà, chose qu'on n'avait pas souvent vu depuis le début de sa carrière, puisqu'il avait quasiment tout gagné, gagné toutes les courses sur lesquelles il s'était aligné.
Merci Arnaud. Jean-Luc, si je te dis Tiffany Cromwell, est-ce que ça te dit quelque chose? Ton micro Jean-Luc, est-ce que ça te dit quelque chose ou pas? Je te pose peut-être une colle.
Alors attends, je me demande, ça n'est pas la femme de Valtteri Bottas?
Eh oui, c'est la compagne de Valtteri Bottas, qui est une coureuse sur le Tour de France femme, Valentin Gemin, pour cette avant-dernière
étape. Quelle transition.
Hein, pas mal. Là, il est bon. Il a failli m'avoir, mais il est bon.
Magnifique. Nous sommes à 60 km de l'arrivée. Annemiek van Vleuten, la grande favorite de cette édition, la néerlandaise, elle est partie toute seule au sommet de la deuxième ascension du jour. On le rappelle, trois ascensions de première catégorie, et la deuxième ascension, c'était le col du Platzer Wasel. Elle a attaqué à 1 km du sommet. Elle était déjà seule avec Demi Vollering, sa compatriote. Et van Vleuten a maintenant 42 secondes d'avance à 58 km de l'arrivée sur Demi Vollering. Derrière, à 4 minutes de van Vleuten, c'est la seule coureuse qui a réussi, on va dire, enfin pas qui a réussi à suivre, qui est derrière Demi Vollering. Elle est à 4 minutes. C'est l'italienne Elisa Longo Borghini, vainqueur de Paris-Roubaix cette année. Et puis encore un petit peu plus loin, à 5-6 minutes, on a un groupe avec notamment Juliette Labousse. Elle était un petit peu au rupteur. On ne sait pas trop si elle a réussi à tenir pour le moment, mais Juliette Labousse était dans un quatrième groupe, elle qui était septième ce matin au classement général. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'Annemiek van Vleuten, 39 ans, on rappelle, un grande favorite au départ de ce Tour de France femme, triple vainqueur du Giro. Elle a gagné cette année. Elle a gagné deux fois l'Estrade Bianche, deux fois Liège-Bastogne-Liège, championne olympique du contre-la-montre à Tokyo. Bref, c'est vraiment la grande coureuse. Eh bien, elle était malade en début de tour. Elle a eu une gastro qui l'a un petit peu fait perdre du temps. Elle ne pouvait pas être au top. Et là, elle est parfaitement remise sur son terrain, la montagne. Et pour l'instant, on ne va pas se cacher qu'elle assomme complètement ce Tour de France. Seul Demi Vollering, pour l'instant,
j'ai eu un jeune victuel pour
elle, quasiment à une minute. Ouais, bien sûr. Puisqu'on rappelle que Marianne Vos, tu as bien raison, Arnaud, de le dire, est bien plus loin. Marianne Vos est à 7-8 minutes, même plus, peut-être. Maintenant, elle a été distancée. On rappelle que Marianne Vos n'est pas une grimpeuse. Elle avait le maillot jaune à la faveur des étapes de plat, mais on savait qu'elle allait perdre. Ça a attaqué très tôt, dès le petit ballon qui était le premier col. Et donc, Marianne Vos s'est fait distancer. Donc, Van Vleuten, maillot jaune virtuel. Il reste une grosse montée, le col du grand ballon. Et le sommet sera situé à 8 km de l'arrivée, ici au Markstein, où il va y avoir de très, très, très gros écarts.
À vivre sur RMC, dans l'heure qui arrive, dans l'heure qui suit, tout comme la classique Saint-Sébastien. La deuxième mi-temps de Dijon Saint-Etienne, ça c'est du football. La première journée de Ligue 2, Dijon qui mène 2-0 face à l'AS Saint-Etienne. Et puis on va suivre peut-être des qualifications pluvieuses à partir de 16h, les qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie. Un très beau programme à suivre sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.